l'histoire. Première dimension, la pandémie, première situation de cette nature depuis un siècle. Donc, globalement, on s'en est bien tiré. Deuxièmement, la tension, le climat un peu délétère lié aux tensions, le climat par rapport aux tensions raciales, mais également aux tensions politiques, les émeutes qu'il y a eu ces derniers temps. On pouvait craindre, comme vous vous en êtes rendu compte, des tas de magasins ont mis des contreplaqués sur leurs vitrines parce qu'ils avaient peur qu'il y ait du grabuge. Eh bien, il n'en a rien été. Tout s'est très bien passé. Donc, des élections bien tranquilles qui se sont déroulées normalement. Et jusqu'à présent, je crois qu'on peut en être satisfait.
Et vous, Claude, qu'est-ce qui a été le plus marquant pour vous pour ce scrutin jusque-là?
Eh bien, tout d'abord, c'est l'importance de la participation électorale. Quasiment historique. Ensuite, je suis tout à fait d'accord avec l'optimisme de René en ce qui concerne la violence. À partir du moment où un résultat sera connu et où nous enregistrons, il ne l'est pas encore, on pourrait voir les partisans du perdant manifester de façon violente. Donc, c'est une chose qui reste à redouter. Mais un autre facteur, si vous voulez, c'est qu'une fois de plus, les sondages se sont trompés puisqu'ils nous annonçaient une victoire relativement aisée pour Joe Biden et elle ne s'est pas produite. Les démocrates attendaient une vague bleue, un raz-de-marée. En fait, ils se retrouvent, dirais-je, avec une tempête sur les bras parce que le président Trump va probablement se tourner vers les tribunaux s'il n'obtient pas un gain de cause en Pennsylvanie.
Et Denise, même question, hein. Qu'est-ce que vous a marqué avec cette élection, même si au moment où on parle, on n'a pas encore tous les résultats?
L'ampleur de ce qui se passe maintenant. On voit à la télévision, on entend la radio, Internet, allez voter, allez voter, allez voter. Il faut participer dans votre gouvernement, dans le système américain. Donc, il faut montrer, il faut viser que notre démocratie fonctionne bien et allez-y. C'est ce que je vois. Et je n'ai jamais vu ça avant. C'est cette ampleur.
Cet appel à aller voter.
Aller voter, oui, c'est marquant, c'est dramatique.
Mais justement, dans ce sens, René, beaucoup pensaient que la mobilisation allait favoriser les démocrates, mais on voit aussi que la base républicaine, la base de Donald Trump, s'est également mobilisée. Quelle interprétation en faites-vous?
Oui, je crois que ça a été une mobilisation en deux temps. Le premier temps, c'était le temps du vote, l'acte 1 et l'acte 2. L'acte 1, c'était le vote par courrier. L'acte 2, c'était le vote par anticipation, vote physique, mais qui en général s'est fait une semaine avant le jour du vote. Et l'acte 3, c'était hier, puisque nous enregistrons mercredi, hier mardi, qui était le jour de l'élection. Et dans l'acte 3, effectivement, les Républicains se sont très très bien mobilisés. Les chiffres sont assez impressionnants. Je ne sais pas si on va y revenir tout à l'heure. Mais au niveau de l'acte 1 et l'acte 2, de toute évidence, c'était à l'avantage des démocrates. Mais globalement, je pense que démocrates comme républicains se sont bien mobilisés et on arrive à des chiffres records. Au moment où on vous parle, où on se parle, Joe Biden est pratiquement en vote populaire, hein, à presque 70 millions de voix. C'est du jamais vu dans l'histoire américaine. Mais encore une fois, cela ne détermine pas quel est le vainqueur. Le vainqueur, ça se joue au niveau du collège électoral.
Justement, Claude, en fait, quel que soit le gagnant, on aura une victoire sur le fil. Ce qui veut dire que les sondages, comme vous le disiez tantôt, sont encore passés à côté. Les médias et les directoires de campagne doivent-ils continuer à publier ces sondages, selon vous?
Je pense que c'est une tradition telle qu'elle ne disparaîtra pas et que dans 4 ans, on se retrouvera avec la même situation et les sondages seront encore très, très actifs. Je crois que les sondages ont encore de beaux jours devant eux. Non, en ce qui concerne la participation électorale, Ce que l'on a vu, c'est que les démocrates ont voté majoritairement par correspondance et les républicains ont suivi la recommandation de Donald Trump qui leur disait méfiez-vous du vote par correspondance, ça va entraîner de la fraude, des manipulations, donc allez voter en personne. Et ils ont suivi cet avis et il y a eu beaucoup plus de républicains qui se sont rendus aux urnes le jour même de l'élection que les démocrates. Maintenant, en ce qui concerne la Pennsylvanie, qui va probablement être l'état décisif, que se passe-t-il ? Pour le moment, Donald Trump a encore un certain avantage, je crois d'une dizaine de points, et il pourrait donc se tourner vers les tribunaux et la Cour suprême et lui demander d'imposer l'arrêt des autres bulletins qui n'ont pas encore été comptés. Ce serait notamment une manœuvre qui rappellerait un peu 2000.
2000, oui. Dans ce niveau, vous pensez qu'on se dirige vers un contentieux électoral qui pourrait se jouer à la Cour suprême?
C'est une bonne possibilité, oui. Oui. Si c'est vraiment très proche, à mon avis, une bonne possibilité. Et c'est ça qui fait un peu peur. Puisque, les émeutes et tout ça, on craigne, c'est ça qui peut être vraiment l'étincelle.
Et vous, Dennis Beaver, vous étiez surpris par le fait que ces élections étaient plus serrées que ne l'avaient prévu les sondages ?
Oui, oui, oui. Puis comme Claude vient de dire, encore une fois, les sondages, ils ont complètement raté l'affaire. On attendait un raz-de-marée pour Biden. Ah ? Pas encore. Donc les sondages, ça pose des questions. Est-ce qu'on dit vraiment ce qu'on pense qu'on va faire ou ce qu'on pense que la personne devant vous qui pose des questions, ce qu'il veut entendre?
D'accord. Alors, en principe, le 14 décembre, c'est le collège électoral qui se réunit pour officiellement élire le président. Et ce résultat sera ensuite certifié en janvier par le Congrès. Donc, tant qu'un des candidats n'a pas concédé, le suspense pourrait être long, n'est-ce pas, Claude?
Oui, absolument. Le résultat, finalement, qui compte, c'est plus celui du 14 décembre que celui du 4 novembre, parce que, certes, les électeurs se prononcent, mais ce sont les grands électeurs qui décident. Il est difficile de dire à ce stade
ce qui va se passer.
Je pense que d'ici la fin de la semaine, on devrait avoir les résultats. Maintenant, ce que je constate, vous demandiez à René quelle surprise, il a noté. En ce qui me concerne, je me rends compte que finalement, vous aviez le mur rouge, vous aviez le mur bleu, et finalement, aucun des deux candidats n'a véritablement réussi à faire une brèche dans le mur de l'adversaire. Parce que tous les États rouges, traditionnellement, ont voté républicain. Une exception toutefois, bien que ne soit pas encore à 100% certain du résultat, c'est l'Arizona. Alors là, c'est un bon point pour Joe Biden, qui en plus décroche, comme le disait René, un siège de sénateur. Le Sénat, malheureusement, le Sénat ne va pas, comme l'espéraient les démocrates, tomber entre leurs mains. Mais à part cela, bon, tout maintenant se joue dans les États de la West Belt, les États industriels, Michigan, Wisconsin, et bien sûr Pennsylvanie. Et pour que Biden puisse gagner, et là nous parlons... Le 4 novembre, et quand les spectateurs nous regarderont, ça sera peut-être différent. Mais il faut absolument que Biden, pour gagner, emporte le Nevada, le Wisconsin et le Michigan.
Alors René, j'entendais quelqu'un dire que ce fameux discours de concession où l'un des candidats reconnaît sa défaite était certainement l'outil le plus important de la démocratie américaine. C'était pas vraiment la constitution ou les lois. Vous vous attendez à ce qu'il y ait un discours de concession bientôt ?
Oui, écoutez, le discours de concession, il installe un climat nouveau, j'ai envie de dire, dans un pays, quand la population l'entend, notamment celle qui est frustrée, parce que la population la plus frustrée, c'est celle qui a perdu, c'est celle qui a voté pour le candidat perdant. Donc d'entendre le candidat perdant dire, écoutez, merci pour tout ce que vous avez fait, merci pour votre vote, mais c'est l'autre qui a gagné, c'est l'adversaire qui a gagné. C'est sûr que ça rassure, ça calme les esprits et c'est bon pour le pays, quel que soit le pays, que ce soit en Afrique, en Europe ou aux États-Unis. Donc il faut espérer qu'on arrive à cela. Et c'était un peu ça l'esprit du discours de concession d'Al Gore en 2000, alors que par la suite, comme vous savez, il gagnait de plus de 500 voix en Floride. Mais bon, à un moment, il faut faire des choix, et parfois le choix patriotique, le meilleur, c'est de dire c'est peut-être serré, il y a peut-être encore des possibilités, mais dans l'intérêt du pays, je concède.
Voilà, Washington Forum revient après une courte pause. Donald Trump porte l'étendard du Parti républicain pour un second mandat. Face à lui, l'ancien vice-président démocrate Joe Biden. Dans une Amérique minée par une pandémie sans précédent, divisée par la question raciale, lequel des deux tickets aura le dernier mot? Et vous, chers téléspectateurs africains, quels sont vos pronostics, vos attentes? VOA Afrique est au rendez-vous de cette course historique. Reportage, débat et correspondance en direct pour prendre le pouls de l'électorat américain. Les élections américaines 2020, c'est sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires.
Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. La diaspora africaine s'est mobilisée lors de cette élection américaine. Beaucoup parmi ceux qui ont acquis la nationalité américaine ont accompli leur devoir de citoyen. Azuma Compaoré en a rencontré deux à Arlington, ici en Virginie.
Personnellement, j'ai voté pour Joe Biden. Je pense que pendant ces 4 ans-là, moi, j'ai fini le collège en 2016. Donc, depuis que j'ai fini, j'ai vu le régime qui est en place, ce qui se passe. Et surtout, l'image des États-Unis en dehors de ce pays, c'est terrible quand même. Donc, je me dis, mon candidat, ce qu'il doit faire, c'est de faire en sorte que les États-Unis soient un pays qui reconnaisse la culture des gens, qui reconnaissent que chacun d'entre nous a une voix, qui reconnaissent que, après tout, nous sommes des humains. En tant qu'immigrants dans ce pays, l'image des immigrants a complètement changé depuis que le président qui est en place. Donc j'attends que ça change.
Mais le candidat Trump, il est absolument, c'est une personne qui est très facile à écouter et qui est bien à écouter. Et puis aussi, il parle comme un Africain en fait. Il agit même comme un Africain, vous voyez, parce que tu parles comme un Africain, tu agis comme un Africain et tu fonctionnes un peu comme un Africain, tu es un Africain. Par exemple, il parle avec hyperbole, c'est-à-dire qu'un Africain ne te dira jamais disons par exemple, il conduit sur l'autoroute et il dit que je conduisais à une vitesse de 60 km par heure. Un Africain va te dire je conduisais à 1 million de kilomètres par heure. Mais tout le monde sait très bien qu'il n'y a pas une voiture qui conduit à 1 million de kilomètres par heure. Mais quand un Africain exagère de cette manière, c'est pour comprendre qu'il conduisait très, très, très vite. Et c'est un peu ça qui me plaît dans Trump, parce qu'il exagère pour faire un point.
Voilà, merci beaucoup. Et je rappelle nos invités ici à Washington, René Lay, canaliste politique, toujours dans la capitale américaine, Claude Porcella, ancien chef du service francophone de la Voix de l'Amérique, et à Bakersfield, en Californie, l'avocat Denis Beaver. Alors, René, le reste du monde suit avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en ce moment ici aux États-Unis. Comment cette élection peut-elle impacter la manière dont l'Amérique est vue à l'extérieur?
Écoutez, la grande question, c'est est-ce que le programme, le projet de America First, donc l'Amérique avant tout, l'Amérique devant tout, l'Amérique uniquement, de Donald Trump va rester à l'ordre du jour. Il est évident que cette politique nationaliste de Donald Trump est perçue de manière relativement différente dans certains pays, et que cela a un impact évident au plan international. Donc si on reste dans cette dynamique-là et que Donald Trump l'emporte pour un deuxième mandat, il est évident que des pays, en particulier, ce qui est assez surprenant et étonnant, les pays européens, les alliés traditionnels de l'Amérique, pourraient se sentir un peu mal à l'aise, à la marge en tout cas.
Je parlais en fait beaucoup plus aussi de la perception que le reste du monde peut avoir par rapport au processus politique. Claude, on voit que la plupart des démocraties avancées ont souvent le résultat le soir même du scrutin. Y a-t-il un problème avec le système électoral américain ou s'agit-il juste d'une particularité américaine?
La particularité, c'est le collège électoral. Dans la plupart des démocraties, c'est le suffrage universel. Et c'est pour ça qu'il est plus facile d'avoir un résultat rapidement. Maintenant, avec le collège électoral, cela prend forcément plus de temps parce que ce sont les États qui décident et le décompte, le dépouillement prend plus de temps. Et dans la situation actuelle où le pays est extrêmement divisé, et cette élection, si elle montre quelque chose, c'est l'importance de cette division des États-Unis, de la population américaine. Donc, c'est un système tout à fait différent qui explique que ça s'est passé déjà dans le passé. Il faut attendre. Le grand message de tous les commentateurs et de Joe Biden lui-même, c'est patience, patience, patience.
D'accord. Denise Beaver, la Floride, par exemple, utilise depuis longtemps le système de vote par correspondance et pourtant, on connaît les résultats avant la fin de la soirée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les 50 États aient les résultats le soir même du scrutin, si c'est possible?
Si tout le monde peut voter par correspondance, ce serait vraiment très chouette.
Ça va retarder les résultats?
Non, si tout le pays vote par correspondance, disons 2-3 jours avant le 3 jour fixe, là, on saurait les résultats tout de suite. Ça s'appellerait. On parle également.
Oui, René, est-ce qu'il faudrait peut-être un système uniformisé, uniforme, même si on sait que les États tiennent souvent à leurs prérogatives?
Tout à fait, en fait, et c'est là d'où vient la difficulté. C'est en même temps la force de l'Amérique, c'est en même temps sa faiblesse, le fédéralisme. Et il y a 50 États, il y a le District de Columbia, où il y a la capitale des États-Unis. Donc il y a 51 codes électoraux différents, avec des règles différentes. Et donc, du coup, les élections ne se déroulent pas de la même manière, il n'y a pas les mêmes contraintes. La Floride, vous en parliez, ils sont allés vite parce qu'en Floride, ils peuvent compter les votes au fur et à mesure de leur arrivée, deux semaines, une semaine, plusieurs jours avant le jour des élections. Mais par contre, en Pennsylvanie, et c'est pour ça que les résultats ne sont pas encore sortis en Pennsylvanie au moment où nous enregistrons, parce que justement, là-bas, ce n'est pas autorisé. Ce n'est que le jour de l'élection, à 7 heures du matin, que les officiels électoraux ont le droit de commencer à dépouiller les votes reçus par correspondance. Donc, du coup, ça va repousser un peu tout à 1, 2, voire même 3 jours.
Donc, je vois Claude qui veut réagir par rapport à ça.
Voilà.
Non, je voudrais simplement ajouter. Au cours des dernières élections, effectivement, on a connu des résultats tard. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Je me souviens lors de l'élection de 1976, on a connu dès 7 heures du soir, on connaissait le résultat. On savait que Gerald Ford avait perdu. Pour Carter, ça avait été sur les coups de 11 heures minuit, on avait eu les résultats. Et puis après, bien sûr, il y a eu Clinton. Pour autant que je me souvienne, ça a été relativement avant minuit de toute façon. Et puis, il y a eu Bush-Gore. Alors là, ça a duré des semaines. Mais je constate qu'en 2016, ne l'oubliez pas, ce n'est qu'à 3 heures du matin que Trump est arrivé et a dit, ben voilà, j'ai gagné et que Hillary Clinton, elle d'ailleurs n'a concédé que beaucoup plus tard, ce n'est que dans le courant de la journée suivant l'élection qu'elle a fait son discours de concession.
Mais justement, Denise, on risque de se retrouver de plus en plus dans cette situation puisque l'électorat est ce qu'il est, il est divisé, donc ça va être de plus en plus serré. Le suspense va continuer encore, peut-être la prochaine fois. Vous ne pensez pas?
Si. Hein?
Et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour vous?
À mon avis, il faut une loi nationale qui dit donc on va voter
d'une certaine manière.
Oui, d'une certaine manière. On va compter les voix tout de suite. Pas attendre. Il faut quelque chose sur le niveau du pays. Il faut faire quelque chose, puisque sinon, hein, comme tu dis, c'est très serré.
Et le processus électoral, là où on en est aujourd'hui, Claude, peut-être pour terminer, qu'est-ce que cela peut signifier en termes de politique étrangère américaine?
Oui, énormément. René en parlait il y a quelques instants. 4 ans de plus de Trump, un expert écrivait dans la revue Foreign Affairs, c'est la fin des États-Unis en tant que grande puissance mondiale. Donc, si Donald Trump est réélu, ce sera la même chose et peut-être même pire. Maintenant, si Joe Biden est élu, ce sera tout à fait différent. D'une part, il lui faudra recoller les pots cassés avec les Européens qui sont maintenant devenus très méfiants après 4 ans au cours desquels ils étaient ignorés, parfois même humiliés par l'administration présente. Trump, Biden aura du mal à les rassurer complètement et à leur dire « mais non, vous pouvez compter sur nous comme vous aviez compté sur nous dans le passé ». Un mot peut-être de la politique américaine en Afrique. Alors là, je pense que ça pourrait tout de même changer au bénéfice des Africains, car Donald Trump n'a jamais eu beaucoup d'intérêt pour ce continent et il a eu des mots très malheureux pour les qualifier. Donc, du côté africain, je pense que les États souhaiteraient probablement une victoire de Joe Biden, encore que Donald Trump, en dépit de tout ce qu'il a dit et fait, reste populaire parmi.
On l'a vu, par exemple, au Nigeria, où il y a eu des manifestations en faveur de Donald Trump. Pour terminer, Denise Biveau, justement, en termes de politique étrangère, si on voit le Proche-Orient, quand même, les partisans de Donald Trump pourraient dire qu'il est en train de faire des choses pour un rapprochement entre Israël et les pays arabes. Il pourrait mettre ça à son actif, même s'il y a la politique de l'Amérique d'abord.
Oui, certainement. Cette élection montre au monde que notre démocratie fonctionne. Biden et Trump, n'importe qui gagne. En Amérique, notre démocratie fonctionne, ça marche. Et c'est une épreuve, à mon avis, tellement importante. Et ça c'est exactement ce qu'il faut présenter, qu'il faut montrer.
Qu'il faut vendre au reste du monde.
Oui.
En tout cas, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités encore une fois et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver l'émission sur notre site internet, sur la page Facebook de VOA Afrique, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.